Donc je lui dois une minute, c'est Yves Decamp pour le journal. Bonjour.
Bonjour. Il garde le cap et ne renie rien, mais il reconnaît des erreurs et assure avoir changé en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République annonce de nombreuses mesures pour le pouvoir d'achat, des classes moyennes et des petites retraites notamment. Des niches fiscales pour les entreprises seront supprimées. Le secrétaire général de la PME, Jean-Eudes Duménil, nous dira ce qu'il en pense. Sur le plan institutionnel, le chef de l'État veut introduire 20% de proportionnel, supprimer l'ENA, les grands corps de l'État, simplifier le référendum d'initiative partagée et développer les RIC locaux. Il propose aussi des maisons de services publics dans tous les cantons. On y reviendra avec notre deuxième invité, André Léniel, vice-président de l'Association des maires de France. La première conférence de presse du quinquennat, ce qu'on en retient, ce qu'on a compris, ce sera bien sûr l'essentiel de ce journal, dans lequel nous irons aussi au Sri Lanka, où les oulémas, 5 jours après les attentats de Pâques, proposent leur aide à la communauté chrétienne. Sans oublier pour le plaisir, un extrait tout à l'heure du nouveau Springsteen. Mais d'abord la météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un ciel d'averses.
Oui, avec plus d'éclaircies qu'hier tout de même. Des averses nombreuses sur tout l'ouest du pays et sur le massif central. Pareil entre la vallée du Rhône et la Bourgogne avec des orages. De la neige vers 1000-1300 mètres et 12 à 20 degrés.
Le bulletin complet en fin de journal.
France Inter.
Pour commencer, on vient de l'apprendre, la mort du président du Secours Populaire, Julien Lauprêtre, président de l'association depuis 1955. Il est mort ce matin dans un hôpital parisien après une chute pour laquelle il avait été justement hospitalisé. Très apprécié des 80 000 bénévoles de l'association, Julien Lauprêtre avait 93 ans. Je vous ai entendu dans la première conférence de presse de son quinquennat. Le président de la République se sera donc montré pédagogue. En tout cas, il aura essayé. En réponse à la crise des Gilets jaunes, aura-t-il convaincu cette autre chose? Il est où le waouh? Demandait par exemple Libération ce matin. On a bien compris qu'Emmanuel Macron, en dressant les contours de sa nouvelle ambition pour la France, avait laissé beaucoup de sujets dans le flou sur le pouvoir d'achat, la décentralisation, l'environnement. On va y revenir. C'est sur le pouvoir d'achat, la fiscalité et les retraites qu'il est était bien sûr le plus attendu. Alors revenons pour commencer sur deux de ces annonces les plus importantes. La baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, la réindexation des petites retraites sur l'inflation et une retraite minimum à 1000 euros. Laurent Kramer, d'abord 5 milliards d'impôts en moins l'année prochaine pour la tranche inférieure des contribuables.
Oui, mesure fiscale pour récompenser le travail. L'imposition est trop forte pour les classes moyennes, souligne Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Et ce qu'a dit hier le président de la République, en écoutant le message des Gilets jaunes, c'est « votre travail va payer davantage, nous allons continuer à baisser les impôts ». Donc il faut adoucir l'entrée dans l'impôt sur le revenu et que donc 15 millions de foyers fiscaux puissent se dire en France « quand nous travaillons, ça rapporte davantage parce que notre impôt sur le revenu baisse ».
Ciblé par cette mesure, 15 millions de foyers fiscaux et de ménages français donc imposés aujourd'hui entre 14 et 30%. Le gouvernement souhaite que cette baisse de 5 milliards d'euros annoncée pour 2020 soit concentrée sur ces classes moyennes dont le revenu fiscal se situe entre 10 000 et 27 000 euros, voire un peu au-delà pour les tranches supérieures. Au final, quelques centaines d'euros certainement d'économies sur la feuille d'impôt pour une famille qui gagne aujourd'hui autour de 35 000 euros. Il ne s'agit pas donc des ménages les plus modestes, des ménages qui n'ont pas d'aide sociale et qui payent aujourd'hui trop d'impôts, estime le gouvernement.
S'agissant des retraites, la réannexation des retraites inférieures à 2000 euros sur l'inflation dès l'année prochaine, c'était attendu. Mais cerise sur le gâteau, le président voudrait instituer une retraite minimum de 1000 euros pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, à ne pas confondre avec le minimum vieillesse.
Et c'est tout l'enjeu de cette annonce. Le gouvernement souhaite encore une fois différencier le travail des minima sociaux avec des retraites aujourd'hui en dessous du minimum vieillesse. Cotiser toute une vie et installer une réforme par points n'a aucun sens pour les Français. Avec le minimum vieillesse porté à 903 euros à l'horizon 2020, eh bien le gouvernement ne peut qu'afficher un objectif d'un montant plancher pour les retraites réévaluées, 1000 euros donc à taux plein à l'âge légal du départ, contre aujourd'hui parfois juste simplement 700 euros. Les retraites des artisans et des commerçants dont les cotisations et les droits restent aujourd'hui très faibles seraient également concernés.
Laurent Kramer, comment tout cela sera-t-il financé? On va y revenir. Une autre mesure était également attendue au profit des mères isolées, auxquelles le chef de l'État promet d'en finir avec les pensions alimentaires impayées. Claire Chaudière, plus de 300 000 familles concernées, tout passera par la CAF.
Oui, il s'agit de permettre aux parents seuls, très souvent les femmes élevant leurs enfants, et ne percevant pas la pension alimentaire de leur conjoint, de ne pas rester des mois sans ressources. On estime que ce problème d'impayé touche 30 à 40% des familles monoparentales soumises au système de pension pensions alimentaires, c'est énorme et cela peut donner lieu à des situations sociales catastrophiques, insiste le gouvernement. L'exécutif veut donc donner plus de moyens aux CAF pour récupérer l'argent non versé. Jusqu'ici, cela semble cohérent, sauf, s'étonne Patricia Augustin à la tête de la Confédération des familles monoparentales, sauf que ce qu'a dit le président hier soir, eh bien, ça se fait déjà.
Je suis perplexe, je ne vois rien de nouveau. Ce qui a été annoncé, c'est pas révolutionnaire, puisque ça existe déjà, et voire depuis plusieurs années.
Alors, depuis 2 ans, effectivement, l'ARIPA, l'agence de recouvrement des impayés de pensions adossée à la CAF, peut être saisie et va jusqu'à récupérer l'argent des mauvais payeurs, mais elle pourrait désormais jouer un rôle d'intermédiaire financier en versant directement les pensions aux familles qui le demandent. C'est ce sur quoi va plancher le gouvernement, assure l'un de ses porte-parole. Il faut étendre ses prérogatives, une évolution qui risque de poser énormément de questions éthiques, estime Joël Raffard, délégué CGT, représentant des salariés des caisses d'allocations familiales.
Chaque situation est vraiment particulière dans ce domaine-là. Traiter les choses de façon automatique sur des rapports humains qui sont dégradés, c'est juste compliqué, quoi. C'est pas si facile que ça. On n'est pas des robots, quoi. On peut pas parler d'un traitement automatisé comme une allocation classique.
Alors aujourd'hui, sur 300 000 impayés de pension, seuls 37 000 dossiers de recouvrement sont ouverts, un chiffre effectivement très faible. Au Québec, une agence verse automatiquement les pensions et s'occupe elle-même de récupérer l'argent.
Ah oui, ce qui existe au Canada, c'est un pays qu'Emmanuel Macron trouve très inspirant. On le verra aussi tout à l'heure sur les maisons de services publics. Alors autant de mesures dont le chef de l'État espère qu'elles pourront faire passer cette boule au ventre dont il a parlé hier soir en reprenant la question d'une consoeur.
Cette boule au ventre, elle existe chaque matin. Mais je pense que il y a une part de cette boule au ventre qui n'est pas que le pouvoir d'achat, qui est cette angoisse profonde que j'évoquais. Donner un cap, des ambitions, une clarté sur la manière de lever les grandes peurs contemporaines. Et je crois qu'avec, en effet, les grands chantiers lancés, parfois les grandes décisions prises, on apporte une part de réponse à ces peurs. Mais je crois que chacune et chacun des Français qui a cette boule au ventre, il a une part aussi de la réponse. Et je crois très profondément qu'une part de la solution à la crise que nous vivons, c'est d'arrêter de croire que notre pays est une société d'individus en état de minorité permanente. C'est une société d'individus qui serait toujours à dire « le gouvernement a la solution, le président va dire comment je vais mieux vivre ». Il doit être là, donner un cap, corriger les inégalités, permettre d'être une nation plus forte. Mais chacun a une part de cette solution parce que nous sommes une nation de citoyens. Et donc chacun est aussi un peu responsable.
Du côté des syndicats, réaction négative de Philippe Martinez pour la CGT qui ne voit rien sur les salaires, le SMIG ou l'ISF. Plus mitigé pour Laurent Berger de la CFDT qui voit des portes ouvertes et des manques. Des mesures en termes de justice sociale qui, selon lui, ne sont pas claires. En tout cas, Emmanuel Macron veut remettre de l'humain dans sa politique dont il reconnaît qu'elle a pu être perçue comme trop lointaine, trop froide et technocratique en mettant la pédale douce sur les économies dont il n'a quasiment rien dit, sinon qu'il allait supprimer quelques niche fiscale réservée aux entreprises, des entreprises qui s'interrogent. Évidemment, ce matin, premier invité de ce journal, le secrétaire général de la CPME, Jean-Eudes Duménil. Bonjour.
Bonjour.
Vous représentez les petites et moyennes entreprises. Alors, vous avez peur de faire les frais de ces nouvelles orientations ?
Bien sûr, on ne sait pas ce que c'est d'abord que les niches fiscales des entreprises dont a parlé le président de la République. Et par contre, on sait traduire. La traduction, elle est très claire. Ça veut dire augmentation d'impôts et des prélèvements obligatoires sur les entreprises. À croire que le ras-le-bol fiscal qui a été exprimé par les artisans, par les TPE, par les PME, il y en a certains qui sont descendus dans la rue, à croire qu'ils n'ont pas été entendus. On parle d'économie, on ne sait pas lesquelles, réduction des dépenses publiques, on n'en parle plus, et par contre on a maintenant un bouc émissaire, c'est les entreprises qu'on va faire payer davantage.
Alors quand vous dites, écoutez,
il est passé à côté de la cible, en tout cas sur ce point-là.
Quand vous dites que vous ne savez pas de quelle niche fiscale il s'agit, probablement la niche Copée, sur la revente des filiales, des grands groupes.
Allez savoir, elle a déjà été modifiée par ce même gouvernement. Donc ça veut dire qu'on va, le président de la République a indiqué qu'il s'inscrirait dans la continuité de son action, donc il va reprendre lui-même des actions qui ont été déjà faites par son gouvernement. Franchement, c'est pas clair. Est-ce qu'il parle du crédit d'impôt recherche, auquel cas il attaquerait les sujets liés à l'innovation, alors que l'innovation, c'est le futur? Est-ce qu'il va nous parler de la TVA sur la restauration? La restauration, c'est le commerce, c'est la proximité. Est-ce qu'il va aussi s'attaquer à ce sujet-là? Enfin, franchement, on s'interroge. En tout cas, c'est vraiment pas une bonne idée.
Mais quand il dit que beaucoup de choses ont été faites pour les entreprises depuis 2 ans, qu'elles peuvent mettre un peu la main à la poche, elles aussi.
Mais bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites, c'est parfaitement exact. Mais si vous prenez d'un côté et que vous reprenez de l'autre, quel est l'intérêt? On a besoin d'avoir une politique qui soit claire, qui soit lisible et qui soit compréhensible. Quand on parle fiscalité, il y a la fiscalité nationale, mais il y a aussi la fiscalité locale, il y a la fiscalité écologique. Et nous, ce qu'on réclame à la CPME, c'est une vision d'ensemble avec un plafonnement global. C'est pas par petites touches, finalement c'est toujours la même poche qui sort l'argent. C'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et c'est pas simplement pour faire plaisir aux chefs d'entreprise. C'est l'intérêt des salariés, c'est l'intérêt du tissu économique. Et si on veut recréer de l'emploi et de l'investissement, il faut arrêter de ponctionner les entreprises.
Alors un mot justement de cette, à propos des salariés, de cette autre mesure pour le pouvoir d'achat, la reconduction de la prime Macron de fin d'année qui sera défiscalisée et désocialisée jusqu'à 1000 euros.
Alors là, par contre, là, on applaudit dès demain. C'est une excellente mesure qui a porté ses fruits. Évidemment, quand les entreprises sont en capacité de la distribuer, donc il faut qu'elles fassent des résultats positifs. Mais c'est très intéressant parce que cette fois-ci, quand vous donnez 100 à un salarié, il touche effectivement 100. Alors que la plupart du temps, quand vous donnez 100 à un salarié, il y en a la moitié qui partent pour les cotisations. Et je ne parle pas de ce qui part pour le fisc derrière. Donc c'est une bonne mesure, à condition, bien entendu, que les conditions d'attribution de cette prime restent les mêmes, c'est-à-dire qu'elle soit simple, lisible, compréhensible et qu'elle soit à l'initiative du chef d'entreprise.
Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, merci beaucoup d'être venu nous voir dans ce 13h. Des chiffres qui vont vous intéresser, le nombre des demandeurs d'emploi qui a baissé de 0,7% ce premier trimestre dans la catégorie A, qui regroupe les personnes sans aucune activité. 24 200 demandeurs d'emploi en moins, une baisse de 1,5% sur un an. Alors des économies seront aussi trouvées, on parlait des entreprises, mais elles seront aussi trouvées dans un nouvel acte de la décentralisation, a dit le chef de l'État. Un nouvel acte qui devra être précisé, qui de toute façon prendra du temps à produire ses effets. En attendant, sur l'organisation de l'État, Emmanuel Macron se veut assez radical en confirmant la suppression de l'ENA, la fin des grands corps de l'État, dont les diplômés, dit-il, ne pourront pas accéder tout de suite au poste suprême et ne pourront plus être garantis de ne jamais les quitter. À charge pour Frédéric Thirier, l'ancien président de la Ligue de football, avocat au Conseil d'État, de formuler des propositions concrètes. Bon courage à lui. Comment faire mieux respirer le système démocratique par ailleurs? Pour Emmanuel Macron, pas question de porter atteinte au principe de la représentativité des élus, mais le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat l'ont convaincu qu'il fallait ouvrir plus grand la porte aux citoyens. Ça passe par une dose de proportionnel à l'Assemblée, sans doute autour de 20% des députés. Et ça passe par un renforcement du RIP, référendum d'initiative partagée, que pourront déclencher 1 million de citoyens contre 4,5 millions aujourd'hui. Élodie Forêt, a priori plus abordable, mais...
Mais ce n'est évidemment pas le RIC, ce référendum d'initiative citoyenne que plébiscitaient les Gilets jaunes. Ça, Emmanuel Macron n'en veut pas. À la place donc, vous avez raison, on assouplit le RIP, le référendum d'initiative partagée, avec 4 fois moins de signatures à collecter. Mais surtout, quand il s'appliquera, c'est bien le peuple qui sera à l'initiative. Si 1 million de citoyens signent une pétition, un projet de loi pourra émerger, alors qu'aujourd'hui ce sont les parlementaires qui sont à l'origine de la démarche, comme récemment dans le cas de ce RIP lancé pour s'opposer à la privatisation d'ADP signé par quelques 250 députés et sénateurs. Reste qu'ici on ne remet pas du tout en cause la démocratie représentative, car les parlementaires se saisiront bien du texte, pourront l'amender comme ils le souhaitent, le rejeter cas échéant. Pour l'opposition favorable au RIC, rien qui ne réponde donc aux vrais besoins de démocratie délibérative. L'assouplissement du RIP, une mesure qui figurera dans la prochaine réforme constitutionnelle que le président veut voir revenir cet été au Parlement.
S'ajoutera à ce RIP amélioré donc, vous l'avez dit, un droit de pétition renforcé au niveau local, droit de pétition mais aussi d'interpellation des élus. Deuxième invité de ce journal, André Léniel, maire d'Issoudun, vice-président de l'Association des maires de France. Bonjour.
Bonjour.
En quelque sorte, c'est ce que disaient ce matin certains de vos collègues, le président de la République refile aux maires la patate chaude.
C'est une habitude de ce président et de ce gouvernement. Chaque fois qu'il faut faire des baisses d'impôts, on le fait sur le dos des collectivités avec la suppression de la taxe d'habitation. Et le RIC, il n'en veut pas pour l'État, alors qu'il veut bien que les collectivités locales en soient chargées. Ou c'est une bonne idée, il ne faut pas en priver l'État, pousser une mauvaise idée et à ce moment-là, pourquoi la transférer aux collectivités locales ? Je crois que tout cela marque une certaine incohérence des propositions.
Mais donner l'initiative aux citoyens comme aux collectivités, ça peut paraître juste ?
Ah ben on est tout à fait pour, et d'ailleurs on le pratique. On n'a pas attendu un discours du président de la République pour que dans nos communes, il y ait en permanence des consultations. Et
oui,
en particulier dans les petites villes et les petites communes.
Oui, mais l'initiative pour l'instant vient des élus.
Non, bien sûr que non. Il y a des pétitions en permanence qui arrivent sur le bureau des maires. Et bien entendu, les maires, s'ils sont de bon sens, en tiennent compte, répondent, rencontrent, dialoguent. Il y a bien entendu aussi les conseils citoyens, les conseils de quartier. Il y a la possibilité des consultations locales. Nous avons déjà toute une panoplie de démocratie directe qui vient en appui à la démocratie, bien entendu, représentative.
Mais rien ne vous oblige de suivre ce que vous demandent les citoyens dans ce cas-là.
Ah, si c'est un référendum tout à fait officiel, bien entendu, voilà. Je ne conçois pas un élu qui ne le suivrait pas. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Si vous faites une consultation de la population et qu'elle vous répond non, il faut être inconséquent pour ne pas la mettre en œuvre. Donc très franchement, c'est un faux semblant.
Alors autre sujet évoqué par Emmanuel Macron, c'est ces fameuses maisons des services publics, maisons France Services, qui réuniraient tous les services publics sous un même toit dans le chef-lieu de canton, par exemple. C'est une bonne idée?
Écoutez, tout ce qui permet de rapprocher le service public du citoyen est une bonne idée. Mais là, comme pour tout le reste, c'est le flou. Le flou de la réalité. Est-ce que ce sont de nouvelles maisons de services publics? Mais à ce moment-là, par qui sont-elles financées? Car aujourd'hui, pour l'essentiel, elles sont financées par les collectivités. Est-ce que c'est simplement une réorganisation des sous-préfectures? Ce sont des questions qui se posent, mais c'est vrai de la plupart des propositions du président de la République. Elles ressemblent plus à un rideau de fumée, à des effets d'annonce, qu'à des propositions très concrètes.
Mais tout cela sera décliné, sera précisé par le gouvernement dans les semaines qui viennent.
Oui, attendez, c'est absolument extraordinaire. On vient de passer 3 mois où, soi-disant, la vérité révélée devait surgir et devait être l'oracle du président de la République hier, et nous aboutissons à une procrastination, c'est-à-dire qu'on renvoie au lendemain toutes les véritables décisions.
Un mot, André Lénel, sur le rôle renforcé des communes dans le choix de fermer des hôpitaux ou des écoles. Certains de vos collègues s'en sont félicités ce matin.
Je ne m'en félicite pas. D'abord parce que la vraie question n'est pas forcément la fermeture des écoles ou des hôpitaux. C'est la fermeture des services dans les hôpitaux et des classes dans les écoles. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous annonce pour la rentrée 2019? Il y a 1800 postes supprimés dans l'éducation nationale. Dans une ville comme la mienne, Issoudun, on nous supprime une classe à la prochaine rentrée. Donc je vais écrire dès la semaine prochaine à l'inspecteur d'académie en disant « J'ai écouté le président de la République, est-ce que ça veut dire que la classe que vous m'annonciez comme fermée à la rentrée restera ouverte ?» Nous n'en savons rien, ou plutôt nous subodorons que tout cela est un enfumage supplémentaire. Quand c'est flou, vous savez, il y a toujours un loup.
Oui, c'est ce qu'on dit. André Lénel, maire d'Issoudun, vice-président de l'Association des maires de France, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Parmi les mesures ou les objectifs également annoncés par Emmanuel Macron, pas plus de 24 élèves par classe du CP au CE1, sachant qu'il faudra pour cela créer des centaines de postes d'enseignants. Et sur ce point, on aura noté la marche arrière du président sur la réduction du nombre des fonctionnaires. 120 000 postes en moins, disait le candidat Macron, si ce n'est pas tenable. Nous abandonnerons cet objectif, explique aujourd'hui le président. Et puis, il y a la transition écologique et ces 150 Français qui seront tirés au sort dès le mois de juin. Ils devront plancher sur les mesures les plus urgentes en termes de transport ou de rénovation thermique des logements. Leurs propositions seront ensuite soumises soit au Parlement, soit au référendum, ce dont s'est d'ailleurs félicité ce matin le ministre François de Rugy en soulignant que l'écologie sera peut-être le seul sujet qui fera l'objet d'une consultation populaire. À ce chapitre également, une autre annonce a retenu l'attention, en tout cas l'attention de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle était ce matin l'invitée de France Inter.
Je voudrais vous citer une annonce qu'a faite le président de la République hier. Il a annoncé la mise en place d'un conseil de défense écologique.
Oui.
Un peu sur le modèle du conseil de défense restreint qui a lieu désormais, compte tenu de l'état de la menace terroriste, avant chaque conseil des ministres. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ce parallèle-là? Parce que ça montre finalement que le président de la République a décidé au plus haut niveau, ce qui est le sien, de prendre la mesure de ce qu'était la nécessité de suivre au jour le jour cette urgence climatique et cette urgence de la la transition écologique, comme il y a une urgence en matière de terrorisme.
Malgré tout, la comparaison ne tient pas quand on considère qu'en matière de terrorisme, le Conseil de défense restreint engage absolument tous les moyens de l'État et on ne délibère pas, on mène l'action avant toute chose pour faire face à l'urgence. En matière écologique, c'est probablement différent.
Et qui vous dit que ça ne sera pas le cas pour le Conseil de défense écologique ?
Voilà, Sibeth Ndiaye, ce matin sur France Inter avec Ali Badou. Sur ce Conseil de défense écologique, comme sur le reste, les avis sont partagés. Pascal Canfin s'en réjouit. C'était une proposition de Nicolas Hulot, souligne l'ancien directeur général du WWF France, le numéro 2 de la liste La République En Marche. C'est du pipeau, en revanche, pour Yannick Jadot, qui ne le dit pas comme ça. On a déjà un Conseil national de la transition écologique avec tous les acteurs de la société, explique la tête de liste Europe Écologie Les Verts. Et puis un Conseil des ministres qui peut mettre l'urgence climatique à l'agenda tous les mercredis. Bref, dit-il, tout est déjà là pour agir. Et l'Europe, dans tout ça, ce n'était pas le sujet de cette conférence de presse. Tout juste, Emmanuel Macron a-t-il appelé à refonder Schengen et à renforcer les frontières européennes pour redéfinir la politique migratoire de l'Union. À un mois, jour pour jour, des européennes, le 26 mai, la campagne continue de battre son plein, comme hier soir au Cirque d'hiver à Paris pour cette soirée débat au casting de Luxe, Zemmour, Welbeck, avec aussi Bruno Le Maire et Jacques Attali. On a parlé d'Europe, mais surtout de la France et de son identité, Thomas Schoner.
C'est la contre-soirée après la conférence de presse d'Emmanuel Macron, Éric Zemmour face à Bruno Le Maire.
La construction européenne a organisé la concurrence, la rivalité et non pas la solidarité entre les États.
Pour enchaîner, Philippe de Villiers, seul sur la piste.
L'Europe que nous voulons, c'est l'Europe de nos racines. L'Europe de notre civilisation.
Et en clôture, deux romanciers, Michel Houellebecq et Benoît Dutertre.
On est moins fort à 25 qui ne s'entendent pas que...
Oui, c'est une connerie, cette idée, on est plus fort à 25, c'est juste con.
La salle est conquise dès le début de la soirée dans son débat face à François-Xavier Bellamy. Jacques Attali montre qu'il n'est pas dupe.
Je me sens un peu comme un lapin invité à un déjeuner de chasseurs.
Bruno Le Maire s'est bien débrouillé selon plusieurs spectateurs.
Si nous voulons résister à la puissance technologique chinoise, on le fera pas tout seul.
Mais pas assez pour convertir le cirque d'hiver.
L'Europe, elle peut pas être fédérale, elle peut pas être dirigée par la Commission européenne, qu'il faut respecter les peuples. Disons qu'on a été confortés dans nos idées.
Il n'y a que des hommes qui ont pris la parole, des militantes féministes pour cela ont tenté d'envahir la piste. Elles ont été violemment expulsées par le service d'ordre.
Soirée débat sur l'Europe à retrouver sur franceinter.fr. À l'étranger, à suivre aujourd'hui en Algérie, le 10e vendredi de manifestation contre le régime. On ne veut pas d'une demi-révolution, titre le quotidien El Watan, qui demande la remise en cause du système dans son entier. Et puis au Sri Lanka, 5 jours après les attentats islamistes de Pâques, le chef de la police a été démis de ses fonctions. Il démissionne officiellement. Les musulmans du pays, notamment leurs théologiens, multiplient les signes d'amitié en direction des chrétiens. Sébastien Farcy à Colombo.
Les mines sont graves, le moment est solennel. En ce jeudi, les 7000 oulémas du Sri Lanka jeûnent en solidarité avec les victimes des attentats et particulièrement avec les chrétiens. Le moufti Rizvi est le président de la conférence des oulémas du Sri Lanka.
Dans l'islam, le meurtre d'innocents est considéré comme l'un des plus graves péchés. Les organisations musulmanes ont déjà condamné l'organisation État islamique en juillet 2015. Donc ceux qui ont commis cet acte barbare ne font pas partie de notre communauté et nous n'accepterons pas leurs dépouilles.
L'organisation appelle les musulmans à coopérer avec les forces de sécurité pour prouver qu'ils ne sont pas du côté des terroristes et ils demandent même aux femmes de lever leur burqa pour faciliter leur identification. Selon Arkam Nouramit, le secrétaire pour la jeunesse, les musulmans avaient demandé l'arrestation de l'instigateur présumé des attentats de dimanche.
Nos frères de l'Est sont allés plusieurs fois déposer plainte contre cet individu. Et ont même manifesté pour demander de l'arrêter, car ils disaient que toute la communauté allait être blâmée pour ses actes.
Malheureusement, ces alertes, comme de nombreuses autres émises par les services de renseignement, n'ont pas été suivies d'effet. À Colombo, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et ce vendredi, les autorités sri lankaises ont revu à la baisse le bilan des attentats en évoquant 253 morts et non plus 359. Allez, pour terminer sur une note plus légère, l'événement Netflix du jour, la série Chambers avec l'actrice américaine Uma Thurman débarque sur la plateforme de streaming et c'est un véritable cas d'école de la stratégie Netflix, une série plutôt moyenne, mais où tout a été savamment pensé pour lui assurer un maximum de promotion, décryptage d'une recette à l'efficacité redoutable avec vous Alexandra Hakoun.
Prenez une star internationale qui n'a jamais fait de série, rien que cela vous vaudra du bruit médiatique à l'échelle planétaire, versez-lui un gros cachet, vous en avez largement les moyens grâce à vos 139 millions d'abonnés, faites-la tourner dans une série au pitch parfait pour attirer les jeunes, votre cible privilégiée, une histoire qui flirte gentiment avec le film d'horreur, celle du cœur d'une ado décédée, greffée sur une autre ado. Et comme une plante qui pousserait d'intérieur, la morte va s'immiscer dans le corps et l'esprit de la vivante, avec vision gore et tout le tralala. Votre star, elle jouera la mère éplorée de la morte. Appâtez ensuite la presse avec seulement 4 épisodes sur 10 avant de faire venir votre star à Sérimania. Verrouillez la communication, surtout pas plus de 10 minutes devant une quinzaine de journalistes et surtout que votre star enchaîne les banalités.
Il n'y a pas plus grande peur pour un parent que de perdre son enfant. J'ai moi-même 3 enfants en parfaite santé, ça a vraiment été très dur pour moi.
Laissez décanter et peu de temps avant le lancement mondial, là vous pouvez révéler les derniers épisodes, la presse se jettera dessus, vous assurant après le festival une deuxième salve de promotion. Et tant pis si au final la série est nulle, on aura parlé de vous et ce sera bien là l'essentiel.
Et on y aura bien participé. Merci Alexandra Hakoun. D'une star à l'autre, après Uma Thurman, Alexandra Hakoun aussi, les fans auront attendu 5 ans avant le nouvel album du boss. Bruce Springsteen annonce la sortie de son prochain disque pour le 14 juin. Album sous l'influence de la pop sud-californienne des années 60-70 intitulé Western Stars. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Voilà, Hello Sunshine, premier titre et premier clip du dernier Springsteen dévoilé cette nuit à minuit, très exactement.